Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et nous allons lire les deux textes de la prédication, avec un premier texte dans le psaume 37, des versets 3 à 7. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, aie le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Et un deuxième texte, dans la première lettre à Timothée, au chapitre 4, des versets 6 à 16. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Nourris des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. Transmets ses instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que tous ceux qui t'écoutent. Jusqu'ici les textes de la prédication.
Voilà, en préambule, je vous dirais simplement que comme nous avons des personnes parmi nous qui se donnent beaucoup d'efforts pour comprendre le français, je vais de temps en temps répéter les choses lentement pour qu'on puisse être suivi, que vous ne soyez pas surpris. Un sportif peut faire tous les efforts et les exercices qu'il veut, tous, hein. Si aucun muscle ne répond à ses sollicitations, il ne peut même pas bouger. Eh bien, comme nous, face à la parole de Dieu, si l'Esprit Saint n'agit pas dans nos cœurs, et nous comptons sur le Saint-Esprit, comme nous venons de le chanter, pour comprendre la Bible ce matin. Nous continuons ensemble la série intitulée « L'Évangile change tout ». Et cette série est fondée sur la Bible, et les sujets nous sont proposés dans le livre de Jack L. Crow, « Ça change tout, l'Évangile transforme ta jeunesse ». Nous avons vu déjà quatre sujets ensemble. Le premier, vous avez ça au dos hein, du document, « L'Évangile change ton identité ». C'était le premier sujet qu'on a vu. Le deuxième, « L'Évangile change ton histoire ». Le troisième, l'Évangile change ton appartenance communautaire. Et le quatrième, que nous avons vu le mois passé, l'Évangile change ta façon de faire face au péché. Et là, je vais vous lire le petit résumé que vous trouvez derrière votre feuille de cette partie-là. Et vous pourrez essayer de faire le résumé d'aujourd'hui à la suite. Et le résumé dit ceci, si l'Évangile a un impact sur toi, tu ne peux plus ignorer le péché, car il te révèle le péché, mais il te sauve aussi de ce péché. L'Évangile t'engage à combattre contre le péché particulièrement par la repentance, tant que tu es vivant dans ce monde déchu. Car ensuite, la vie éternelle donnée par Dieu à quiconque croit en Jésus-Christ est libérée du péché. Voilà ce que nous avons vu la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble que l'Évangile change aussi dans nos vies quelque chose, ce sont nos disciplines. L'Évangile change tes disciplines. C'est le titre de cette prédication et nous aurons quelques éléments. Premièrement, nous verrons qu'est-ce que c'est, hein, l'Évangile change ou amène à des disciplines spirituelles. Et nous en verrons quatre. L'Évangile motive à la discipline de la lecture de la parole de Dieu. L'Évangile motive à la discipline de la mémorisation biblique. L'Évangile motive à la discipline de la prière. Et l'Évangile motive à la discipline de l'évangélisation. Donc l'Évangile change ta façon de vivre, car l'Évangile t'amène à des disciplines spirituelles. En fait, l'Évangile nous fait découvrir la joie du salut. Hein? Si l'œuvre parfaite est complète de Jésus-Christ, c'est vraiment l'œuvre parfaite et complète de Jésus-Christ, et nous aimons dire que tout vient de Dieu, que le salut repose sur son œuvre, et c'est un socle inébranlable de notre assurance du salut. Et c'est vrai. C'est vrai. Tout vient de Dieu pour notre salut. Jésus a vaincu le péché et la mort. Et la dernière fois, nous avons vu que l'Évangile change notre façon de faire face au péché. Nous ne voulons plus le pratiquer. Nous mettons tout en œuvre pour ne pas le commettre. Et aujourd'hui, avec ce sujet de l'Évangile change nos disciplines, eh bien, nous allons plutôt voir ce que nous allons pratiquer. La dernière fois, c'est ce que nous ne voulons plus faire. Et aujourd'hui, c'est plutôt ce que nous voulons pratiquer. Et aujourd'hui, avec ce sujet, on va voir ce que le bénéficiaire de l'Évangile veut et désire vivre. Et c'est le passage de 1 Timothée 4.8 qui est notre moteur. Hein. 1 Timothée 4.8, 1 Timothée 4.8. 1 Timothée 4.8, qui est vraiment notre base, si on veut, pour cet enseignement. Qui dit ceci, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie éternelle et de la vie à venir. Exerce-toi à la piété. » Si on veut même le prendre en grec, c'est « gymnazo » à la piété. Vient du terme gymnastique, s'entraîner. Et les traductions dynamiques, donc les traductions dynamiques de la Bible, c'est les traductions qui veulent nous donner le sens. Ils vont pas traduire forcément tous les mots, mais nous donner le sens en fait de ce qui se passe ici. Comme par exemple la Semeur qui dit « Entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Exerce-toi à la piété. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu. » Ou la Parole de Vie dit « Entraîne-toi à rester fidèle à Dieu. » Ou encore la Bible français courant, exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. C'est ça, exerce-toi à la piété. Et la discipline, c'est le moyen, les balises, les règles mises en place pour s'entraîner justement. Et l'Évangile nous apprend que Dieu nous a sauvés pour un but. Dieu nous a sauvés pour un but, le glorifier en vivant d'une manière qui indique clairement le changement de vie qu'il a opéré en nous. Donc là, on peut prendre le crayon si jamais. L'Évangile nous apprend que Dieu nous a sauvés pour un but, le glorifier, en vivant d'une manière qui indique clairement le changement de vie qu'il a opéré en nous. Et cela s'apprend. Et pour apprendre, il faut de la discipline. Afin de bien comprendre ce que veut dire cette notion de discipline spirituelle, nous allons rapidement aborder 6 aspects que je reprends de Don Whitney qui a écrit un livre qui s'appelle « Discipline spirituelle pour la vie chrétienne » qui est un excellent livre, bon malheureusement uniquement seulement en anglais actuellement, mais qui nous pousse à entrer dans ce cheminement des disciplines spirituelles. Voici ces 6 aspects qui nous permettent de mieux comprendre ce que signifient les disciplines spirituelles décrites dans la Bible. Alors, premier aspect, les disciplines spirituelles sont personnelles, que l'on peut pratiquer seul, en privé. Les disciplines spirituelles sont personnelles et interpersonnelles. C'est-à-dire que l'on pratique avec d'autres, en public ou en tout cas dans un groupe. Donc les disciplines spirituelles sont personnelles et interpersonnelles. Il y a les deux. Par exemple, nous prions seuls dans notre chambre et nous prions en communauté. Et les deux pratiques sont autant importantes. Jésus a pratiqué les disciplines spirituelles personnelles et interpersonnelles. Il est notre modèle et nous voulons le suivre. Deuxième aspect, les disciplines spirituelles sont des activités. Des choses que nous faisons, que nous pratiquons. Les disciplines spirituelles sont des activités, des choses que nous faisons, des choses que nous pratiquons. Les disciplines spirituelles ne sont pas des attitudes ou des qualités de caractère ou des grâces ou le fruit de l'esprit. Non, ce sont des choses que nous faisons. Par exemple, nous lisons notre Bible. Nous prions, nous jeûnons, nous adorons, nous servons, nous apprenons. Ce sont toutes des activités. Alors bien entendu, que le but de toutes ces activités ne sont pas les activités elles-mêmes, évidemment, mais de devenir toujours plus comme Jésus-Christ, d'être toujours plus proche de lui. Et le cheminement biblique pour nous amener à ressembler toujours plus à Jésus-Christ, à être toujours plus proche de lui, c'est de pratiquer avec la bonne attitude les disciplines spirituelles. C'est ce que Dieu a mis en place dans sa parole. Comme l'eau tombe pour que ça puisse permettre de pousser. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui pousse. Or Dieu peut faire pousser sans eau. Ça, c'est possible. Mais c'est habituel. Eh bien, dans nos vies, c'est la même chose. Les disciplines spirituelles nous permettent de grandir. Troisièmement, les disciplines spirituelles sont des pratiques présentées dans la Bible. Les pratiques spirituelles sont des pratiques présentées dans la Bible. Tout ne peut pas être appelé discipline spirituelle. Par exemple, faire son jardin, ou aller faire une randonnée dans la nature, ou bien toutes sortes de loisirs recommandables ne sont pas des disciplines spirituelles. Même si elles peuvent nous aider ou nous stimuler dans notre foi, c'est vrai. Mais ce ne sont pas des disciplines spirituelles. Quatrièmement, les disciplines spirituelles présentées dans la Bible sont suffisantes pour connaître Dieu, expérimenter sa proximité et grandir à sa ressemblance. Donc, quatrième élément, les disciplines spirituelles présentées dans la Bible sont suffisantes pour connaître Dieu, pour expérimenter sa proximité et pour grandir à sa ressemblance. Le texte de 2 Timothée 3:16 est très fort. Peut-être l'avez-vous déjà dans le cœur. 2 Timothée 3:16 and 17. Donc 2 Timothée 3:16 qui nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. En fait, il n'y a pas besoin de chercher des disciplines spirituelles que la Bible ne présente pas, parce qu'elles sont suffisantes. Cinquième aspect, les disciplines spirituelles sont dérivées de l'Évangile et non pas isolées de l'Évangile. Vous avez l'Évangile et la discipline spirituelle est dérivée de l'Évangile et non pas isolée. Les disciplines spirituelles sont dérivées de l'Évangile, non pas isolées de l'Évangile. Lorsque nous pratiquons les disciplines spirituelles, elles nous mènent dans une plus grande profondeur de l'Évangile, le cœur de notre foi chrétienne, et pas à un niveau de chrétienté plus élevé. Et sixième aspect, les disciplines spirituelles sont des moyens et non des buts. The means and not the goals. Des moyens et non des buts. Le but, c'est la piété, c'est être proche de Dieu, c'est ressembler à Jésus-Christ, c'est vivre d'une manière sainte. Nous ne sommes pas spirituels parce que nous pratiquons les disciplines spirituelles. Ça, c'est l'erreur des pharisiens. En fait, nous pratiquons les disciplines spirituelles parce que nous sommes spirituels. Nous ne pratiquons pas les disciplines spirituelles pour être sauvés. Nous les pratiquons parce que nous sommes sauvés. Nous ne pratiquons pas les disciplines spirituelles pour attirer les bonnes grâces de Dieu. Non, nous les pratiquons parce que nous aimons obéir à ses commandements qui sont tous bons. Six aspects que nous venons de voir qui nous permettent de mieux comprendre de quoi nous parlons lorsque nous parlons de discipline spirituelle. Et afin de vivre les disciplines spirituelles dans une bonne attitude, nous devons aussi comprendre ce que nous sommes appelés à devenir. Quel est l'objectif? Vers quoi nous tendons? Afin de vivre les disciplines spirituelles dans une bonne attitude, nous devons aussi comprendre ce que nous sommes appelés à devenir. Savez-vous ce que vous êtes appelé à devenir lorsque vous êtes en Christ? Bien, ouvrez vos Bibles dans Romains 8, 29. Romains 8, 29. Romains 8, 29 nous le dit très clairement. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Semblable à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Semblable à l'image de son Fils. Et 1 Jean 3, 2 nous le fait même déjà percevoir. 1 Jean 3, 2 nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » C'est sûr, c'est certain. Mais comme un virtuose du violon, c'est ce que c'est un virtuose du violon. Virtuose du violon, c'est quelqu'un qui sait jouer du violon, mais de manière extraordinaire. Eh bien, imaginez que ce virtuose du violon, qui a, disons, 30 ans, on le voit à 5 ans. Avec son petit violon. Première fois qu'il pince ses petites cordes. Et là, il voit en vision comment il sera à 30 ans. Est-ce que le fait qu'il ait vu comment il sera enlève la nécessité de s'entraîner?
Je vois des têtes qui bougent de gauche à droite ou de droite à gauche,
c'est juste. Mais non! C'est en pratiquant qu'il deviendra un virtuose, et non pas en pensant ce qu'il serait peut-être en restant inactif. Il en est de même pour nous. Bien sûr que nous avons même l'assurance d'être un virtuose. Lui, il a peut-être une idée, une imagination. Nous avons une assurance. C'est pas parce que nous avons cette assurance que nous devons juste attendre que ça arrive. C'est se moquer de Dieu. Il nous a donné des disciplines spirituelles. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être actifs dans une bonne attitude, quel que soit notre âge. La discipline, c'est pas juste pour les vieux.
C'est ce que disent les jeunes,
Ou c'est pas juste pour les jeunes.
C'est ce que disent les plus âgés.
Non, c'est pour chacun. La discipline, c'est aussi pour tout le monde selon son rang social. Tout le monde. Selon sa santé. Oh, la discipline, c'est que pour ceux qui sont en bonne santé. Puis ceux qui sont en bonne santé, ils diront, ah non, la discipline, c'est surtout pour ceux qui sont en mauvaise santé. Mais non, la discipline, c'est pour tous. Et c'est important de le saisir. Et si la Bible nous parle de différentes disciplines spirituelles, comme le jeûne, l'adoration, le repas du Seigneur, la communion fraternelle, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur 4 disciplines qui nous sont proposées donc dans ce livre de l'Évangile change ta jeunesse. Et les 4, eh bien, on a vu tout à l'heure, c'est nos 4 prochains points. La parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, la mémorisation biblique, la prière et l'évangélisation. Ce sera nos 4 prochains points. Donc l'évangile motive à la discipline de la lecture de la parole de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu. Et si nous sommes réconciliés avec lui, nous avons envie de l'entendre. Eh oui, on a envie d'entendre celui avec qui on est réconcilié et qui est le maître de l'univers. Est-ce que vous avez jamais eu envie de recevoir un coup de téléphone de Dieu? Allô? Franchement, réfléchissez, Dieu qui vous téléphone.
Ça vous fait quoi?
Ben, si vous aimez Dieu, mais vous seriez mais fou de joie, vous dites, waouh, il va me parler, je vais pouvoir lui parler, c'est extraordinaire. Parce que tout ce qu'il dit est vrai. Il ne trompe personne. Il a des paroles de vie, des paroles d'encouragement, des paroles qui nous guident, qui nous transforment. Il nous comprend totalement. Donc il dira pas un mot de travers dans tout ce qu'il va me dire. Mais je me réjouis d'avoir ce téléphone.
Eh bien, vous l'avez?
Il est là.
Eh oui, la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole que Dieu nous donne. Nous l'avons, les amis.
Et on parlera un peu du psaume 119, parce que vous savez que le psaume 119, psaume 119, thank you, c'est le psaume d'amour de la parole de Dieu.
Il parle après différents termes, la loi, les préceptes, etc. Mais c'est toujours la parole de Dieu, en fait, de quoi il parle. Et celui qui a cette parole dans le psaume 119, il l'aime tellement, il trouve c'est fabuleux. Et c'est pour ça qu'il commence par dire dans les premiers... Bah allez dans le psaume 119. Psaume 119.
Je pourrais vous dire, lisons le psaume 119. Non, peut-être pas le lire en entier. Il est assez long, mais il y a tellement de choses à dire dans l'amour de la parole de Dieu. Et nous devrions avoir quelque part un cœur qui est bien plus long que le psaume 119. Mais je vais vous lire déjà les deux premiers versets. Heureux. Et ouais, ça commence par ce terme. C'est très important. Parce qu'en fait, il aime cette parole. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ces préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. J'ai tous mes téléphones allumés, je veux l'entendre.
Mais c'est votre Bible que vous ouvrez. Hein, faites le bon numéro, par exemple, psaume 119, 1 et 2, c'est un bon numéro.
Dieu lui-même a dit à Josué aussi l'importance de lire la parole pour réussir dans sa vie. Parce que c'est en étant imprégné de cette parole, en la vivant, qu'il pourra la vivre. Josué 1, 7 à 9, je vais vous le lire. Joshua 1, 7 to 9, je vais juste vous le lire. C'est Dieu qui dit ça à Josué. Seulement, fortifie-toi. Aie bon courage. En observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer, mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Partout. Donc Josué est invité à méditer la parole de Dieu. La méditer. Hein, quand on parle de la discipline de la lecture, la méditation fait partie de cette discipline. Mais ça veut dire quoi méditer? What is meditation? Qu'est-ce que la méditation? Eh bien aujourd'hui, ce que l'on nous dit régulièrement, méditer, c'est vider son esprit. Hein? Vider son esprit et en fait se mettre à l'écoute.
Bon, de quoi? De soi. Ou de suggestion.
Mais ça, c'est pas la méditation biblique. Ce n'est pas la méditation biblique du tout. La méditation biblique, ce n'est pas vider son esprit. C'est au contraire le remplir de la parole de Dieu. La méditation, c'est pas vider son esprit, c'est le remplir de la parole de Dieu pour ensuite prendre le temps de ruminer, de la digérer petit à petit et de se délecter de toutes ses saveurs. Ça, c'est la méditation biblique. Donc la méditation biblique, ce n'est pas vider son esprit, c'est le remplir de la parole de Dieu, pour ensuite prendre le temps de ruminer cette parole, enfin, réfléchir, de la digérer petit à petit, c'est-à-dire de qu'elle soit utile dans nos vies, évidemment, en se délectant de toutes ses saveurs. On s'en réjouit, on peut même en parler autour de nous, ce que l'on fait aussi régulièrement, et il faut continuer. Et c'est ce que faisait l'auteur du psaume 119, hein, si on continue cette fois-ci au verset 15, il nous dit « Je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » Et je vais juste vous donner trois éléments qui peuvent augmenter notre amour de la parole de Dieu. Trois éléments très simples. Hein, aujourd'hui, en principe, ça devrait être simple, tout ce que je vous dis. Si c'est compliqué, c'est que je dois progresser dans la manière de vous dire les choses. Mais c'est simple. La première, c'est lire souvent la Bible, régulièrement. Parce qu'en la lisant souvent, elle devient notre compagnon de route. C'est comme ça qu'on apprend à l'aimer, en la lisant souvent. Deuxièmement, en la lisant entièrement.
entièrement, afin d'avoir une vue d'ensemble du message de Dieu et de saisir ce qu'il veut nous dire dans des messages particuliers. La lire en entier.
Pas en un jour, je sais pas si c'est possible, c'est très difficile.
Je parle pas de ça, je parle de le fait de la lire en entier.
Le temps, on en parlera quelques secondes tout à l'heure.
Et troisièmement, donc la lire souvent, la lire en entier et la connaître. Quand on connaît quelque chose, on s'y attache. On y est attaché parce qu'on le connaît.
Je veux dire, si vous avez un jour un bateau, par exemple, vous n'êtes jamais allé dans ce bateau, vous ne pouvez pas vous y attacher, c'est difficile.
Mais si vous y êtes allé régulièrement, vous connaissez chaque recoin,
ça peut être une maison, ça peut être plein d'autres choses, hein,
ben, vous commencez à l'aimer.
C'est la même chose avec la parole de Dieu. Et là, c'est vrai que c'est important d'avoir des aides. Est-ce que vous suivez un plan de lecture de la Bible?
La lecture de la Bible en une année, moi je trouve que c'est une bonne chose pour ceux qui peuvent le faire. Pour ceux pour qui c'est un poids trop grand, ne vous mettez pas ce poids. Mais pour beaucoup, ça ne l'est pas. C'est 15 ou 20 minutes maximum de lecture par jour. C'est possible.
Ou bien on peut se dire, ben on va pas faire ça chaque jour, mais on va de lire en une année, mais on va la lire sur 3 ou 5 ou 7 ans.
Hein, les notes bibliques du pèlerin que vous pouvez suivre par exemple, c'est lire la Bible sur 7 ans. Et vous l'avez lu en entier. Et ça, je vous encourage vraiment à le faire. Est-ce que vous réfléchissez lorsque vous avez lu votre Bible? Oh là, il y a plein de petits signets qui vous donnent des questions. Hein, parle-t-on de Dieu, de Jésus-Christ, etc. Hein. Moi, je vais vous donner une chose ce matin que je trouvais sympa. C'est la méthode Coca pour ceux qui ont soif d'éternité. La méthode Coca. Alors, bien sûr, C-O-C-A, hein, c'est quatre éléments. La première, c'est le contexte. Hein? Dieu a dit quelque chose avant et après. Donc on réfléchit au contexte.
C'est le premier mot de Coca.
Contexte. Deuxième chose, observer. Observer. Dieu parle de différentes manières. Des fois il nous parle par un récit, des fois il nous parle par un poème, des fois il nous donne une explication simplement d'un élément, des fois il nous parle d'une construction, enfin toutes sortes de manières. Donc on observe. Qu'est-ce que Dieu, comment est-ce qu'il parle? Pour ne pas se fourvoyer sur ce qu'il veut nous dire. Hein. Donc, contexte, observer, et ensuite, comprendre. Ben oui, Dieu nous parle pour qu'on puisse comprendre. En fait, la Bible, très souvent, elle est simple, mais profonde. Or, il y a des textes qui, parfois, on doit creuser pour vraiment saisir les liens et comprendre exactement quelles sont les significations profondes. Mais généralement, nous avons toujours un élément que nous peut comprendre assez simplement. Comprendre. Et si l'on a de la peine à comprendre, ben on peut demander à quelqu'un. On peut s'encourager les uns les autres, on peut chercher. Donc, le contexte, observer, comprendre, et le A. C'est une idée? Action, application, ben vous êtes génial. Et c'est exactement ça. Appliquer! Parce que la parole ne doit pas juste rester dans mon cœur. C'est pas toujours, ce matin, j'ai lu un de ces textes, c'était fabuleux.
C'était quoi ton texte? Attends. Ah oui, c'était Genèse. Enfin, voyez.
Non, mais ça, on veut l'appliquer. Et ça, c'est un élément important. Quand Dieu nous parle, il nous parle pour que cela change quelque chose.
Voilà, donc la méthode Coca pour ceux qui ont soif d'éternité. La pub.
Alors, car si nous agissons sans intention, dès que la motivation baisse, nous ne lisons plus la Bible. Nous avons besoin de motivation. Nous en avons vraiment besoin. Parce que la Bible est à la base de toutes nos disciplines spirituelles. Un moyen important que Dieu utilise pour nous faire grandir. Et la deuxième discipline dont nous allons parler est directement liée à celle-là, en fait. C'est l'évangile qui nous motive à la discipline de la mémorisation biblique. De retenir la mémorisation biblique. Hein, l'évangile transforme nos vies, on l'a déjà vu, et l'enseignement de cette transformation est dans la Bible. Et il faut qu'elle vienne dans le cœur. C'est bien qu'elle soit dans la Bible, mais il faut qu'elle vienne dans le cœur. Et c'est vraiment important. Et la mémorisation, c'est un excellent moyen pour cheminer de manière à plaire à Dieu. Et plus tôt vous commencez, mieux ce sera. N'attendez pas d'avoir 80 ans.
Parce que vous pouvez demander aux personnes qui ont 80 ans dans l'église, ils vont vous dire, c'est beaucoup plus facile de mémoriser maintenant, évidemment. J'ai tellement d'entraînement. Ben non, on a des neurones qui se détériorent, donc c'est plus difficile.
Donc il faut le faire avant. C'est pas pour ça qu'on cherche pas à se donner de la peine, même plus âgé. Mais on se rend compte qu'on n'a plus cette facilité. Donc, plus tôt on commence, mieux c'est. Vous vous rappelez du psaume 119.11, on l'avait appris par cœur. Tiens, c'était de la mémorisation qu'on avait fait en église. Vous vous souvenez? Psaume 119.11. Je serre ta promesse dans mon cœur, c'est ça? Afin de ne pas pécher contre toi. C'est juste ou bien? Je serre ta promesse dans mon cœur, voilà, afin de ne pas pécher contre toi. C'est ça. Et je trouve intéressant dans son livre là sur l'évangile transforme la jeunesse, Jacqueline Crowe parle d'une expérience qu'elle a faite. Son père a vu une méthode pour apprendre des livres bibliques entiers. Puis ça l'avait interpellé, puis ils se sont dit, ben on va faire ça ensemble. Et en fait, ils ont commencé à le faire. Et je trouve vraiment intéressant de faire ce cheminement. Et il donne quelques conseils. Les conseils que je vais donner, c'est pour commencer à mémoriser des versets avant de voir la Bible en entier. Mais la première chose, c'est se mettre à plusieurs pour mémoriser les versets. Le faire seul, c'est pas facile. On se décourage très vite. Après 2 ou 3 semaines, on s'arrête. On a de la peine. Donc le faire à plusieurs. Moi, c'est ce qui m'a, je pense, pénalisé. J'ai appris Tite et puis un Jean que j'ai pas tout à fait terminé. Et je pense à le fait que j'étais seul, que je m'en rappelle même plus tellement, et puis que j'ai eu de la peine à persévérer. Donc, être à plusieurs, c'est tellement plus motivant. On peut s'envoyer des petits messages texto, on peut se dire, voilà, quel petit chant j'ai fait pour m'en souvenir, etc. La deuxième notion, c'est une notion de redevabilité, ou d'avoir même un coach, quelqu'un qui nous encourage, qui nous stimule. Si on veut arriver à un objectif, il nous faut mettre les moyens. Les sportifs, ils mettent des moyens. Pourquoi pas nous? Nous sommes des sportifs spirituels. Et même ceux qui sont couchés sur leur lit sont des grands sportifs spirituels. C'est extraordinaire, ça. Troisième conseil, commencez à choisissant des textes qu'on apprécie particulièrement. Vous avez des textes que vous aimez dans la Bible. Apprenez ceux-là par cœur, déjà. Ben oui, commençons par ces textes-là. Par exemple, Romains 8.1, ça vous dit quelque chose? Il est extraordinaire, puis il est pas long, celui-là. Hein? Car il n'y a maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Hein? Ou bien Matthieu 7.12, hein? Celui-là est pas mal aussi. Or, les parents, ils aiment bien le dire aux enfants. Hein? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Bon, les parents doivent aussi le faire envers les enfants, évidemment. Vous pouvez aussi prendre des thèmes. Hein? On a parlé de l'artisan de paix, avec les différents éléments, où on peut apprendre les versets par cœur qui nous rappellent les différents éléments. Souvenez, premier R, rendre gloire à Dieu. Hein? Soit donc que vous mangez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Hein? Corinthiens 10, 31, etc. Que cette parole nous revienne. C'est vrai que vous n'aurez pas toujours, je vous donne un verset, vous dites, ça vient pas tout de suite. Mais au moment où vous en aurez besoin, Dieu vous permettra de vous en souvenir. J'en suis certain. Un autre conseil, c'est commencer petit avant de se lancer des défis plus grands. Alors, Jacqueline, par rapport au livre biblique, elle a commencé par Colossiens. Il est un peu plus petit quand même. Ensuite, ils ont fait Habakouk, ensuite ils ont fait Romains. Bon, ok, c'est 4 mois pour Romains, apparemment. Extraordinaire. Ça demande la persévérance. Que Dieu nous donne ce désir d'avoir cette parole dans nous. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir au moins tout le Nouveau Testament par cœur. C'est trop génial. Vous imaginez cette richesse? On a entendu ce matin dans la prière que peut-être la persécution vient. Actuellement, on a nos Bibles. Hein. Si on les a plus, on doit les avoir là. C'est vraiment important. Un autre élément, c'est se fixer des objectifs clairs et réalistes. Hein, donc pas faire des. Si vous dites demain, j'apprends toute la Bible pour après-demain, c'est pas possible. Enfin, c'est un grand miracle. Soyons créatifs. Par exemple, vous pouvez faire des dessins pour vous rappeler d'un verset. Vous pouvez l'écrire avec des différentes couleurs. Vous pouvez le chanter. Vous pouvez l'écrire sur un support que vous voyez tous les jours. Vous pouvez l'enregistrer, enfin, etc. Donnez des moyens de support à votre mémoire pour que cette parole puisse entrer dans vos cœurs. Et dernier conseil, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ça veut pas entrer, la mémoire se perd. Ne désespère pas. Continue simplement à régulièrement te remplir de cette parole. Si le Seigneur te donne la grâce de les avoir par cœur, remercie-le et utilise-les pour sa gloire. Et si tu ne les as pas tout de suite dans la tête ou par cœur, remercie-le aussi, parce qu'ainsi tu peux quand même progresser avec lui. Et souvenez-vous, la mémorisation n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de mettre la parole de Dieu dans nos cœurs. Donc ce que tu apprends étant jeune, souvent, te reviendra à l'esprit en étant plus âgé. Ça, c'est une expérience que j'ai déjà souvent vue. On parle à quelqu'un de plus âgé. Ce qu'ils ont vécu plus jeune, ils s'en souviennent. Et par rapport au passage biblique aussi, ce que tu apprends étant jeune, souvent, te reviendra à l'esprit étant plus âgé. De quoi veux-tu te souvenir? Voilà une fameuse phrase que je vous ai déjà dit souvent, que je me dis aussi souvent. C'est que tu ne débordes que de ce que tu te remplis. Ça paraît simple, mais c'est vraiment ça dans nos vies. Si dans vos journées, vous avez des dizaines d'heures à vous remplir de tant de choses autres que la parole, ben c'est ces choses-là qui vont déborder. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire notre travail comme il faut, évidemment. Mais on se remplit de bonnes choses. On va maintenant à la troisième discipline qui découle des deux autres, c'est la discipline de la prière. De la prière. Donc, on a la lecture de la parole, la mémorisation de cette parole et la prière. Et quand nous lisons la parole de Dieu, cela devrait naturellement nous conduire à la prière. Une prière dirigée par les Écritures, une prière nourrie par notre méditation. Souvenez du téléphone, Dieu nous appelle. Ben, il nous parle, mais nous aussi on lui parle. C'est par la prière, justement, que nous pouvons nous adresser à lui. Est-ce que la prière vous paraît banale? C'est possible, hein? Ça m'est déjà arrivé, en tout cas pour moi. Tellement l'habitude d'entendre prier. Depuis la plus tendre enfance, c'est normal. On prie avant les repas, on prie avant de dormir. On prie. Mais la prière, c'est une communication d'un être humain pécheur avec un Dieu très saint. C'est juste quelque chose d'incroyable. Et de temps en temps, de se souvenir que c'est quelque chose d'extraordinaire, la prière, c'est quelque chose qui peut aussi nous stimuler. Cette communication ne serait pas possible sans que Jésus-Christ se soit sacrifié pour nous et qu'il intercède pour nous. En fait, la prière, c'est un miracle. C'est pas possible de prier Dieu si Jésus-Christ n'avait pas agi. C'est un miracle. Donc vivons de ce miracle tous les jours et n'hésitons pas à prier. Il existe plusieurs livres aussi intéressants sur la prière. Peut-être vous avez entendu parler du livre « Pourquoi prier si Dieu sait déjà ?» Une bonne question d'ailleurs. Un livre de Douglas Kelly que je vous encourage à lire, pourquoi pas, pendant vos vacances. Donc lire sur la prière, c'est bien. Prier, c'est encore mieux. Donc n'hésitons pas à, c'est vrai, nous informer sur la prière, mais ne délaissons pas la prière pour lire ces livres, évidemment. C'est des fois la tendance qu'on pourrait avoir. Donc afin, et parfois on tourne un peu en rond, on prie peut-être toujours un peu les mêmes choses, etc. Eh bien afin de ne pas tourner en rond dans la prière, n'hésitons pas à prier en reprenant le texte biblique qu'on vient de méditer justement. La Bible, il y a quand même pas mal de chapitres dans la Bible, hein, pas mal de versets. Et donc si chaque verset vous les priez, ou ils sont une source pour vous de prier, eh ben c'est extrêmement varié la manière de prier à Dieu. La prière peut être vécue à tout moment, hein, pourquoi pas de temps en temps s'arrêter et prier, hein. Et ça, j'aime, on s'arrête de temps en temps avec Marie, il faudrait prier pour quelqu'un. Alors quand on dit « faudrait prier pour quelqu'un », on essaye de prendre l'habitude de se dire maintenant, on s'arrête et on prie. C'est pas juste « faudrait le faire ». On s'arrête puis on prie. Ça vaut la peine. Hein? Ou bien, on peut même le faire en conduisant, mais sans fermer les yeux évidemment. En préparant un repas, ou bien en attendant quelqu'un qui est en retard. Ses parents, ses enfants, ou un ami, ou quiconque d'autre qui est en retard. Mais priez. Priez même pour cette personne, pour le bien. Je vous assure que vous aurez une bien meilleure attitude quand cette personne arrivera. Avoir le réflexe de prier en toute situation. C'est ce que veut dire un verset biblique que vous pouvez apprendre par cœur dès demain. C'est un objectif atteignable. Il a trois mots. C'est 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Ça va comme verset à apprendre? Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5:17. Quelque part, la référence est plus longue que le verset, hein. Donc, 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Et Paul encourage également les Colossiens quand il dit dans Colossiens 4:2-4, hein, Colossiens 4:2-4, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le ministère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement comme je le dois. Priez pour ceux qui annoncent la parole, priez les uns pour les autres. Et dans l'église, nous avons des sujets de prière que nous distribuons chaque mois, Et en fait, nous avons un sujet de prière pour le lundi, pour le mardi, mercredi, etc. Ça signifie que durant 4 semaines, nous prierons pour le même sujet le lundi, pour le même sujet le mardi, enfin, etc. Dans le but de persévérer dans la prière pour des sujets. Donc ça, c'est aussi important d'avoir cette notion et cela nous aide à exercer la discipline spirituelle d'utiliser ces aides qui nous sont mises à disposition. Et je nous encourage à noter, à partager les exaucements de prière. C'est vraiment important. Je trouve intéressant, on a eu un témoignage lors du dernier groupe de jeûne. Et une question qui est venue, est-ce que tu peux nous dire une prière qui a été exaucée dans ta vie? Je trouve excellent. Et la réponse a fusé, donc c'était aussi excellent d'ailleurs. Et vraiment d'avoir cette notion de dire, mais est-ce que je note quelque part aussi ces exaucements de prière? Comment Dieu agit? Je sais pas, je suis en train de lui demander, mais je suis en train de reconnaître ses œuvres. Donc la prière en privé, comme si vous savez pas trop comment ça se passe, ben lisez Matthieu 6. Matthieu 6 vous expliquera la prière et la prière en privé. Si jamais, vous pouvez méditer. Et la prière communautaire aussi est importante. Acte 4 nous le montre très clairement aussi, quand les disciples se sont retrouvés, ont prié ensemble, où l'Esprit de Dieu a agi. Donc n'hésitons pas à faire le point sur notre prière, de se dire, mais est-ce que vraiment je suis en train de cheminer? Et quelque part, j'aimerais vous dire, priez pour ma vie de prière. J'ai envie de progresser. J'ai besoin de grandir. Et je veux et je prie aussi pour votre vie de prière. Dernière discipline que nous allons courtement aborder, c'est que l'Évangile nous motive aussi à évangéliser. Donc non seulement à lire la parole, non seulement à la mémoriser, non seulement à prier, mais à quelque part la transmettre, transmettre l'Évangile. L'Évangile, nous voulons le transmettre car il se transmet par des paroles précédées et accompagnées d'actes cohérents. Voilà ce que c'est l'évangélisation. L'Évangile, nous voulons la transmettre et il se transmet par des paroles précédées et accompagnées d'actes cohérents. Donc sans parole, il n'y a pas d'évangélisation. Ça n'existe pas ça. On me dit des fois, j'évangélise sans parole, c'est pas possible. Mais parler de l'Évangile sans vivre l'Évangile, c'est un contre-témoignage. Voici une définition d'évangélisation que je trouve intéressante. Elle est de Donald Whitney qui dit ceci. Évangéliser, c'est transmettre l'Évangile. Quiconque expose fidèlement les faits essentiels du plan du salut de Dieu à travers Jésus-Christ est en train d'évangéliser. Cela est vrai, qu'importe si vos paroles sont prononcées, écrites ou enregistrées, et qu'importe si elles sont adressées à une seule personne ou à une foule entière. Il y a divers moyens, évidemment, de transmettre ces paroles. Connaissez-vous le plan du salut? Bon, on l'a vu la dernière fois. Vous vous souvenez? Eh oui, l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? Mais il y a au moins 4 choses qui devraient venir dans nos pensées. La première, c'est qu'il y a un Dieu créateur, un Dieu qui a fait toutes choses. Deuxièmement, qu'en fait, l'homme s'est éloigné de ce Dieu créateur. Il est devenu pécheur, donc sous sa condamnation. Troisième élément, c'est que Jésus est venu pour sauver le pécheur. Et quatrième élément, veux-tu te repentir et croire en lui? C'est le plan du salut. Bien sûr qu'il y a plusieurs manières de l'apporter, mais ces éléments-là sont essentiels. Et Jésus nous le dit, hein, très clairement dans Marc 16, 15, il nous dit « Allez dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est un appel à tous les disciples de Christ. Et si aller évangéliser demande un effort, que ce soit autour d'un café, sur un blog, dans la rue, au stand, aux portes, dans un avion avec un inconnu, dans un devoir pour un prof, dans la discussion avec les collègues pendant la pause, lors d'une kermesse ou autre encore, si ça demande un effort, c'est vrai que ça demande un effort. Mais ceux qui aiment Jésus-Christ sont heureux lorsqu'ils ont pu partager l'Évangile. Ça, je vous assure. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais quand vous avez pu partager l'Évangile avec quelqu'un, vous êtes heureux. J'ai pu donner une pépite d'or là, à quelqu'un. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de grâce. Partageons cette grâce autour de nous. Donc la question que j'aimerais nous laisser, c'est as-tu une discipline d'évangélisation? Et quand on parle discipline spirituelle, on l'a vu tout à l'heure, ce sont des actions, c'est pas des attitudes. C'est pas des choses qu'on a envie de faire, c'est des actions concrètes où l'on parle de l'Évangile, où l'on vit de manière persévérante, même quand on n'en parle pas. L'Évangile fait partie de la discipline spirituelle de base avec la lecture de la parole et l'évangile est le moteur et le message. On arrive à la conclusion, comment est-ce que je peux voir si je pratique les disciplines spirituelles? Est-ce que vous pratiquez les disciplines spirituelles? Comment est-ce que vous pouvez faire un bilan? Eh bien, je cherche consciemment et avec effort à vivre dans la sainteté. Et non pas pour l'acquérir, mais parce que je la trouve en Christ. Et je ne vis pas d'intention, mais d'action concrète. C'est ainsi que je vais pouvoir voir si je vis les disciplines spirituelles. Si je suis toujours dans des intentions, j'aimerais, je pourrais, ça serait bien de faire, mais que je ne fais rien, je ne vis pas les disciplines spirituelles. Donc je ne peux pas grandir. Donc c'est comme il n'y a pas de pluie, ça ne peut pas pousser. Non, je veux le vivre. Et pourquoi? Parce que je veux vivre dans la paix et la sanctification que Dieu me demande pour voir sa gloire. Hein, Hébreux 12, 14 nous dit « Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Nous avons donc vu ce matin que l'évangile amène à des disciplines spirituelles. Et elles sont bonnes. Souvent quand on entend discipline, c'est négatif, c'est dur, c'est lourd. Mais c'est tellement bon d'avoir des temps avec Dieu, de recevoir sa parole, de la mémoriser, de la transmettre autour de nous. Vous savez, une voiture qui roule sur la réserve, c'est ce que c'est une voiture qui roule sur la réserve? C'est qu'il y a une petite lumière qui s'allume, puis qu'il n'y a presque plus d'essence. Une voiture qui roule sur la réserve ne va pas loin. Mais un chrétien qui fait régulièrement le plein par les disciplines spirituelles ira loin.
Éternel notre Dieu, nous sommes dans la grande reconnaissance parce que tu nous permets de connaître l'évangile de Jésus-Christ. Toi, ce Dieu saint et parfait qui nous a créés, dont nous nous sommes détournés, qui sommes sous un juste jugement, qui méritons d'être punis éternellement. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés. Mais non seulement cela, bien plus encore, tu nous as donné une nouvelle nature. Tu nous as permis, Seigneur, d'entrer dans une nouvelle communauté. Tu nous permets d'être dans une nouvelle histoire. Tu nous permets d'avoir cette joie de ne plus vouloir pécher, de le combattre, et de savoir que tu es le vainqueur, et que nous pouvons continuer à le faire, non pas en nous décourageant, mais en sachant que tu es celui qui nous en délivrera totalement un jour. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que non seulement tu nous dis ce qu'il n'est pas bon de faire, comme le péché, mais tu nous engages dans des disciplines spirituelles qui sont tellement bonnes. Nous pouvons t'entendre, nous pouvons entendre tes paroles. Oh Seigneur, ces paroles qui nous font tant de bien. Par exemple, ce texte si fort dans 1 Pierre 5, 7 qui nous dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. » Oh Seigneur, nous voulons le faire parce que nous savons que toi-même, tu prends soin de nous. Ô Éternel, j'aimerais te prier que toutes ces paroles que nous avons entendues ce matin ne soient pas des poids sur nous. Et s'ils le sont, Seigneur, peut-être que c'est parce que notre nature n'est pas changée. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner cette grâce, d'avoir une nature qui soit changée, afin que nous ayons de la joie à vivre, Seigneur, ce cheminement que tu nous donnes dans ta parole, qui nous approche de toi, qui nous rapproche les uns des autres, et qui nous permet de te glorifier. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.